La partie études bibliques, vous savez que nous sommes dans l'épître aux Romains, le PowerPoint va s'afficher.
C'est vrai.
Depuis la semaine dernière, nous étudions les épîtres de Paul aux églises. Et nous avons considéré déjà en introduction que ces épîtres sont christocentriques. On appelle ça christocentrique parce qu'elles recentrent tout en permanence sur la personne et l'œuvre suffisante de Jésus. Elle présente donc des points de doctrine essentiels. Ce sont les grandes vérités dans ces épîtres, les grandes vérités que l'Église ne doit jamais perdre de vue, qu'elle ne doit jamais oublier, parce qu'au final, c'est réellement sa vie qui en dépend. Christ est indissociable de sa parole. Et chaque fois que nous sommes séparés de sa parole, ou déviants de sa parole, eh bien, évidemment, c'est sa vie qui ne peut plus couler en abondance en nous. Nous avons commencé cette première grande vérité la semaine dernière dans l'Épître aux Romains. Ce thème fondamental, c'est vital, pas seulement au début de ma conversion, mais il faut vraiment demeurer dans ces choses. On va en parler encore ce soir, c'est la justice. La justification par la foi, cette justice dont Paul parle, vous l'aviez compris, c'est pas de l'équité, c'est pas de la justice au sens j'ai donné 5 euros à ma fille, j'en donne 5 à mon autre fille pour être équitable. Cette justice dont Paul parle, c'est en réalité le fait d'être approuvé. C'est un état spirituel qui fait que je suis acceptable, présentable, approuvé devant Dieu. Et l'apôtre Paul insiste clairement sur le fait que personne, ni grec, c'est-à-dire les non-convertis, et les juifs qui ne sont pas convertis de toute façon, ils étaient juste dans l'ombre des choses à venir, que personne, absolument personne, ne peut être agréable à Dieu, accepté de Dieu. Donc Paul commence par présenter, chapitre 1 et 2, l'état de ce qu'on appelle l'universalité du péché et de la condamnation de toute l'humanité, besoin de réaliser notre condition de pécheur, état de perdition, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Il a une partie dans le deuxième chapitre qui est très forte, où il concentre son argumentation sur les Juifs. Il faut qu'ils comprennent qu'ils étaient dans l'ombre des choses à venir et que ni leur héritage, ni leur cérémonie, ni leur rituel, ni la circoncision, ni quoi, ni qu'est-ce, rien, absolument rien, ne pourra leur épargner le jugement de Dieu à la fin, puisque c'était l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Donc, il faut absolument qu'eux aussi comprennent ces choses. Donc, personne n'est agréable, approuvé de Dieu. Paul va donc insister sur l'universalité du péché. On a vu ce passage dans le chapitre 3. Il va insister sur le fait que c'est Jésus, Dieu incarné, le seul juste, celui, le seul qui soit agréable à Dieu, approuvé de Dieu, le seul qui soit présentable devant Dieu, qui puisse satisfaire Dieu, et qu'il est le seul juste, victime propitiatoire, c'est-à-dire celui qui va être capable de rendre propice au sens où il va apaiser la juste colère de Dieu, où il va satisfaire à la sainteté de Dieu. Il démontre ensuite qu'Abraham, de toute façon, le père des croyants, a été justifié par la foi, chapitre 4, et il conclut, c'était là-dessus que nous nous étions arrêtés la semaine dernière, il conclut la première partie de son épître. Au chapitre 5, les versets 1 à 11, justifiés par la foi, justifiés, nous avons la paix avec Dieu, ni accusés, ni condamnés. Justifiés par son sang, nous sommes sauvés de la colère. Nous sommes réconciliés avec Dieu, le Père. Et puis ensuite, c'est pas 5, 1 à 12, c'est 12 jusqu'à la fin, je me suis trompé, au chapitre 5, du verset 12 jusqu'à la fin. Du chapitre 5, il va démontrer la supériorité du don gratuit de Jésus pour la justification. Paul dit bien, justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et c'est important de bien considérer cela, que ce n'est pas seulement au point de départ de notre conversion, mais que nous sommes vraiment appelés, parce que ça ne concernait pas que les premiers chrétiens, Je vais soulever des questions et des points et des réalités de vie, sans reproche, bien sûr, dans lesquelles peut-être les uns et les autres se reconnaîtront. Et on va s'apercevoir que la réalité de la grâce et de quitter un système de loi, au final, peut soulever bien des questions et mettre mal à l'aise bien plus d'un chrétien et même bien plus d'un pasteur. C'est pas clair pour tout le monde. Grâce dans laquelle nous demeurons fermes, on va dire ça après. Je m'explique. Grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Pourquoi demeurer fermes? Et oui, parce que comparé au système sacrificiel et l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance, c'est quand même drôlement facile, hein? La grâce peut susciter plusieurs questions. Est-ce que la grâce, finalement, n'est pas un encouragement à pécher? C'est tellement facile. Jésus est venu, il s'est incarné, il est l'agneau pascal, l'agneau parfait, il a tout accompli. Moi, je me suis repenti, j'ai mis ma foi en action. Je demande pardon, il me pardonne. Je suis sale, je suis dans l'iniquité, je demande pardon, il purifie mon iniquité. Excusez-moi, c'est drôlement facile, non? Surtout, 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 quand je m'aperçois très rapidement après ma conversion, qu'il y a tellement de défauts de caractère qui me collent à la peau, qu'il y a tellement de choses qui ne changent pas en moi ou qui ne changent vraiment pas vite, tellement de choses en moi, tellement de faiblesses vis-à-vis de certaines tentations, de certains travers, des chutes, certains péchés dans lesquels je pensais ne plus jamais tomber, mais malheureusement j'y suis retombé. Et en considérant ces choses, peut-être j'ai un moment je me suis dit, mais est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et finalement, ils sont où mes efforts à moi dans tout ça? J'aimerais réellement vaincre le péché, j'aimerais triompher de la puissance du péché, j'aimerais accéder à cette vie chrétienne dont le pasteur me parle, que la Bible me dépeint, mais au final, que devient la loi? Et au final, mes efforts, ma participation, je fais quoi moi? Faut peut-être que je me prenne en main. Il faudrait peut-être quand même que j'essaie de me canaliser, de m'améliorer, parce que je veux, c'est sincère, je veux plaire à Dieu, parce que finalement, elle est où la victoire sur mon ancien moi? Elle est où ma vie de transformation? Ils sont où mes progrès qui devraient être évidents de tous? Elle est où ma ressemblance à Christ? Elle est où ma transformation? Où est la sainteté de Dieu en moi? Où est ma liberté vis-à-vis du péché? Quand on voit si facilement, pardon, tellement d'enfants de Dieu, des pasteurs aussi, on est chrétien avant d'être pasteur, parfois tomber ou retomber dans des vices, dans des addictions qu'ils cachent. On est dans des inquiétudes, on prend des formes de dépression qui nous collent à la peau, on se traîne dans la vie. Ah oui, c'est sûr, on est sorti d'Égypte, vers le pays promis, excusez-moi. Où est l'abondance de Christ dans nos vies? Où est la puissance de sa vie en nous? Et puis au final, ben oui, on est sorti d'Égypte. Excusez-moi, mais quel désert! Des fois, on a l'impression qu'on est rentré dans la vie chrétienne. On nous a, quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, il me dit, tu sais, Stéphane, moi j'ai l'impression qu'après ma conversion, hein, on m'a donné une Bible, on m'a donné un mode d'emploi. J'ai l'impression qu'on m'a donné une paire de rames, mais ça fait des années et des années. Dis oui, je comprends, frère, je comprends. Et ce sont ces différents constats à différents niveaux qui me font, comme dit Paul, Romains 7, je voudrais faire le bien, je prends plaisir à ce que Dieu ait à sa loi, mais en définitive, je m'aperçois tant de fois que le mal peut être encore attaché à moi et qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Alors, c'est là que je me dis, mais où est la place de la loi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être qu'il faut que je fasse preuve de plus de rigueur. Et puis, je vais me coller, pardonnez-moi, des exigences, des règles, des interdits. Il faut pas. Interdit, obligation. Combien de fois, pardon, j'ai entendu des chrétiens me dire, oh, je sais bien sur ce point. Mais tu sais, j'y travaille, hein. Je vais faire un travail sur moi. Et tu vas faire un travail sur toi. Et de, non, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait un réel travail du Saint-Esprit en toi. Mais que toi, tu fasses un travail sur toi, ça s'appelle de la psychologie évangélique. Et c'est certainement pas le plan de Dieu. Et puis, pardonnez-moi, on a vu quand tu travailles sur toi, au bout de 20 ans, on a vu encore le peu de résultats. Non, ça ne marche pas. Alors, on est sincère, tout ça, oui. C'est pourquoi? Parce qu'on veut accéder à cette vie chrétienne, on veut accéder à ce modèle biblique. Et puis, c'est comme ça que vous avez des chrétiens, vous avez des pasteurs qui sont devenus durs, qui sont devenus exigeants, intransigeants. légalistes. Vous savez, les gens qui sont devenus légalistes, ils sont pas devenus légalistes, ils sont pas devenus légalistes par amour de la loi. Ils sont devenus légalistes à cause de la peur du péché, à cause des luttes qu'ils n'ont pas remportées, à cause des victoires qu'ils n'ont pas remportées, à cause de leurs échecs, de leurs chutes, de leurs rechutes, dans un système pernicieux où il a bien fallu qu'ils essayent d'eux. Et c'est comme ça que malheureusement on devient légaliste. Alors il va falloir se tenir. Pasteur va déjà commencer à se tenir lui-même. Puis il va falloir tenir les chrétiens. Alors quand ça marche un peu, quand à la force du poignet, on a obtenu quelques progrès dans nos vies, mon Dieu, quelle fierté! Puis ensuite, quand je retombe, parce que c'est voué à l'échec, notre temps est clair, il n'a pas écrit l'Épître aux Romains pour rien. Quand je retombe, quand je suis confronté à mes incapacités, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Quelle honte! Mais du coup, je me suis engagé dans un système. Alors, il faut faire bonne figure. Et voyez l'engrenage qui se passe. Et vu le système qui est en place dans ma vie, vu le système qui est en place dans mon couple, dans ma famille, dans mon église, impossible de se confier. À qui je vais parler dans mon église de telle lutte, de tel combat, de telle chute? À quel pasteur est-ce que je peux dire, tu sais, pasteur, voilà réellement ce que je vis. Voilà réellement à quoi j'en suis. Voilà réellement mes rechutes successives, sans craindre d'être jugé, d'être maltraité. Sans... Alors on souffre parce qu'on a mal dans sa conscience et on a peur d'être jugé, on ne peut pas se confier. Donc on se reprend en main. Et puis on réessaye, on recommence. Et on se remotive. Et les mois passent et les années passent. Et on repart dans des boucles comme ça, incessantes. C'est toujours la même chose parce que le cercle est pernicieux, vous allez comprendre pourquoi. Et un jour, vous avez des gens, vous avez des pasteurs, pardonnez-moi. On se contente simplement, on a acheté du linge, on a dit, ouais, ça ne sert à rien du tout. On se contente de faire bonne figure. Et voilà le système dans lequel, pardonnez-moi, on a fabriqué de parfaits petits hypocrites. Voilà comment on garde. Voilà comment ça, on fait une usine à hypocrites. Alors, comment est-ce qu'on va venir à bout de ce système pernicieux? Comment on va expérimenter une victoire totale sur le péché? Un système qui est un engrenage, qui est pernicieux, un constructeur, vous allez comprendre. Alors, à partir de là, Paul, vous pouvez ouvrir Romains 6, on va le lire, bien sûr, mais Paul va aller sur ces questions. Une fois qu'il a démontré la justification par la foi, il va aller sur ces questions. La loi de Dieu, la loi de la grâce, la loi du péché, la loi de la mort, la consécration totale, la liberté du péché, la mort à soi, la loi de l'esprit de vie, et puis le rapport entre tout ça, et puis au final, ben, beaucoup de frères et sœurs, quand ils lisent l'Épître aux Romains, pardon, ils ne savent plus trop la loi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Le rapport entre tout ça, pourquoi ça ne marche pas. Alors évidemment, on va déjà, avant de dire ce qu'il y a à dire sur la loi, on va déjà tous bien se rassurer et bien dire que la grâce n'est pas permissive, évidemment, et ce n'est pas un prétexte pour pécher. Vous savez, j'ai connu des chrétiens qui avaient franchement peur de la grâce. Je connais des pasteurs qui avaient peur. On passe après les gens. Il y a une puissance libératrice dans la grâce. Il y a une puissance qui m'arrache à ma misère, à ma médiocrité. La victoire sur le péché, elle est dans la grâce et nulle part. Comprends? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Je vous ai mis versets 1 et 2, versets 14 et 15. Excusez-moi de vous rejoindre, parce que je parle, mais je n'avais pas préparé le texte. Romains chapitre 6. Voilà, versets 1 et 2. Après avoir démontré donc cette supériorité de la justification par la foi, par la grâce, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Mais certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Un petit peu plus loin. Verset 14, 15, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je vous parlerai aussi beaucoup des caractéristiques de la grâce et de la puissance qui réside dans ce message. Verset 15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais maintenant sous la grâce? Loin de là, Amen. Évidemment, il est inconcevable d'être complaisant, d'être permissif avec le péché, puisqu'on sait que c'est une puissance de destruction, une puissance de mort. Puis, on a parfaitement conscience, j'espère, tous autant que nous sommes, de ce que nos péchés ont coûté à Jésus. Et quand on a profondément conscience du prix payé, on n'a pas envie de jouer avec le péché. Vraiment pas, vraiment plus. Il y a une révélation déjà à ce niveau-là. Quand on est laxiste, quand on est permissif, quand on est coulant, on est tolérant avec le péché, n'importe quelle forme que ce soit, excusez-moi, c'est déjà, il nous manque déjà une première dimension de révélation, c'est la révélation du prix payé à la croix. Quand j'ai la révélation de mon Sauveur en croix, je n'ai pas envie de jouer. Non, pas du tout. Ah bon, on sait aussi, de par l'Épître aux Romains, on en reparlera, que l'objectif, c'est la sainteté. Afin, dit Paul, Romains 8, que vous, Romains 6, que vous parveniez à la sainteté. On sait que c'est la ressemblance à Christ, c'est le modèle parfait, c'est le modèle suprême. Mais on ne peut triompher du péché, on arrive à la sainteté par aucune loi. C'est pour ça que Paul va nous amener à retrouver des grands principes spirituels comme la puissance de la grâce, qui va briser notre orgueil, qui va nous libérer, nous changer, qui va nous transformer, nous épanouir, nous arracher à notre médiocrité. Ça va nous dynamiser, ça va être un moteur de vie, je vous expliquerai tout ça. Vivre, s'épanouir dans la grâce, trouver toutes les victoires qui existent déjà dans la grâce. Mais avant de s'épanouir dans la grâce, il faut déjà avoir dit non à la loi. On va lire aussi maintenant au chapitre 7. Les versets 1 à 13, alors je fais des survols par thématique. Ce soir, vous avez compris, on va parler du rapport du chrétien à la loi. Chapitre 7, on va prendre les versets 1 à 13. Et Paul va insister sur le fait qu'il faut absolument que nous soyons dégagés de la loi. Romains 7, verset 1, ignorez-vous, frères? Je parle à des gens qui connaissent la loi. Ignorez-vous, frères, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, il va prendre un exemple. Là, il fait une analogie. Il prend l'exemple d'un couple. Ainsi, analogie. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Logique. Si donc du vivant, par contre, si une femme de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Par contre, si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Je vais vous expliquer, c'est simple. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Cet autre, on le va voir, c'est Christ. À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions encore dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus ou enfermés, selon vos versions, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a dit. Me direz-vous donc, la loi est-elle péché? Mais pas du tout. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Parce que sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Et quand le commandement, quand la loi vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, toujours dans l'idée à cause de la loi, me séduisit par le commandement, et par lui me fait mourir. La loi, certes, sainte, Le commandement est saint, juste et bon. Et ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Mais non, loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, par la loi, il devient condamnable au plus haut point. Amen. On a déjà un peu de pain sur la planche avec ça. Hein, d'accord? On va expliquer tout ça. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Comment ça dégager de la loi? Qu'est-ce qu'on fait de la loi? On fait une croix dessus? On la jette? On la rejette? On la renie? Eh non! Paul confirme totalement la loi. Donc, je n'ai pas lu que du chapitre 7, j'ai regardé un petit peu dans l'Épître aux Romains. D'ailleurs, je vous invite vraiment à la relire, à la reméditer avec les éléments que l'on va apporter mardi après mardi. Mais déjà, c'est clair, l'apôtre Paul confirme totalement la loi. 3.31, annulons-nous donc la loi? Non, nous confirmons la loi. Jésus avait dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Le ciel et la terre passeront, mais ma loi, ma parole ne passera pas. Il ne disparaîtra pas un seul iota, c'est-à-dire un seul trait de lettre en grec. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de ma loi, de ma parole. L'apôtre Paul dit bien, là on l'a lu par contre, 7.12, la loi est sainte, le commandement est saint, le commandement est juste, le commandement est bon. Un peu plus loin, ce qu'on n'a pas lu, verset 22, il dit, mais moi je prends plaisir à la loi de Dieu, bien sûr, évidemment. Alors, il la confirme, et puis là il faut vraiment que l'on comprenne la vocation, la raison d'être de la loi. Mais aussi, il faut comprendre les limites de la loi, ce pourquoi elle existe et ce pourquoi elle n'existe pas. Il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Alors, évidemment, l'apôtre Paul, il la confirme. Ok, jusque-là, ça va. Jusqu'on le sait, petite définition, qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, c'est la norme suprême. C'est la référence absolue. La loi, c'est effectivement l'expression par sa loi. Dieu va exprimer sa sainteté, sa perfection spirituelle et morale. La loi, c'est la référence absolue qui exprime la perfection absolue du seul et unique Dieu vivant et vrai. Donc Paul ne va pas la rejeter, nous non plus, certainement pas. Mais ce qu'il ne veut surtout pas, c'est que nous en fassions un moyen de justification et qu'on n'aime pas la prendre parce qu'elle n'est pas. Donc, on ne va pas donner à la loi un rôle qu'elle n'a pas. Et quand on parle de la loi, vous avez bien compris, de par mon introduction, on ne parle pas seulement de la loi de Dieu, on parle de toutes nos lois, de tout le travail qu'on essaye parfois de faire sur nous-mêmes, de nos interdits, de nos obligations, de tous ces moments où on essaie de se canaliser, de se calmer, de se maintenir, de se maîtriser, de se contenir sur certaines choses. Tout ça, c'est voué à l'échec. La vocation de la loi et aussi de ce que nous pourrions essayer de mettre en place pour vaincre le péché, la vocation, la raison d'être de la loi, c'est déjà de mettre en lumière le péché. La loi, elle fait quoi? Elle accuse. Elle pointe du doigt. Elle pointe du doigt le péché dans les cœurs, dans les vies, dans nos vies. 3.20, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. 4.15, on ne l'a pas lu non plus. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. On a lu 7.7, je n'ai connu le péché que par la loi. S'il n'y avait pas eu une loi qui me dise tu ne convoiteras pas, je dis tu ne convoiteras pas. Je sais pas ce que c'est un convoitif. En réalité, l'apôtre Paul est en train de dire ici, même si quelque chose est mal, il faut le définir. C'est exactement. Ouais, excusez-moi, j'ai une phrase qui arrive en même temps. Je vais le mettre dans l'ordre, sinon ça ne vous aura rien à dire. Inconsciemment, implicitement, nos lois humaines, nos sociétés humaines sont fondées sur la parole de Dieu. Le premier principe fondamental du droit français, je vais t'expliquer, il y a 4 piliers dans le droit fondamental français. 4 piliers fondamentaux. Le premier pilier fondamental, c'est il n'y a pas d'infraction sans loi. Le deuxième pilier, c'est personne n'est censé ignorer la loi. C'est pour ça que j'ai mis ici au chapitre 3, verset 19, afin que toute bouche soit fermée. La loi a été donnée, dit Paul, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Je n'ai connu le péché que par la loi. S'il n'y avait pas une loi qui avait clairement été instaurée pour dire, vous n'avez pas le droit de franchir un feu rouge, sans loi, vous pourriez franchir un feu rouge. Mais vous pourriez vraiment vous offusquer si un agent vous arrête, il vous enlève 4 points, il vous met 90 euros. Il dit, mais pourquoi, de quel droit, monsieur, etc. Montrez-moi où est-ce que c'est écrit. Ben oui, c'est écrit. Il y a une loi qui dit que, et parce qu'il y a une loi, c'est la raison d'être de la loi, c'est de pointer du doigt, c'est de mettre en lumière les infractions spirituelles, de mettre en lumière le péché. 3.19, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable. Parce que personne n'est censé ignorer la loi. Et même ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, Paul dit au début des Romains, de toute façon, même ceux qui sont nés sans la loi, ceux qui ne sont pas juifs d'origine, de toute façon, leur conscience est une loi pour eux-mêmes. Donc c'est la vocation, la raison d'être de la loi. Et puis ça va plus loin, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la qualifier, comme nos systèmes humains qualifient les infractions. Ça, la loi va vraiment aller débusquer le péché, elle va vraiment le rendre évident. 5.20, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Ah oui, parce que je vais aussi vous montrer quelque chose. C'est que, autant la loi de Dieu que les règles, les obligations, les interdits, tout ce que nous essayons de mettre en place pour nous maîtriser et essayer de vaincre toute forme de péché dans nos vies, tout ce que nous essayons de mettre en place en termes de loi, celle de Dieu ou les nôtres, de toute façon, la loi excite le péché. Prenez un enfant, comme nous pécheurs par nature. Et puis, l'enfant commence à s'approcher d'un placard ou de la cheminée, il va se brûler, il va prendre quelque chose qui n'est pas. Il va faire une bêtise, il va faire quelque chose, peu importe, vos enfants, vos petits-enfants. Et puis là, vous l'interpellez, vous dites, Non. Et là, il vous regarde. Et parce que vous lui avez dit, non, tu ne touches pas, à l'intérieur, il y a un truc qui fait, pourquoi il m'a dit de ne pas y toucher? Du coup, ça paraît d'autant plus appétissant, délectable. Et j'ai dit, attends. Et quand vous avez retourné, ils y vont, pourquoi vous souriez? Pourquoi vous souriez? Pourquoi vous souriez? On a tous eu les mêmes. Et on a tous été enfants aussi. La loi, l'interdit, excite le péché. Donc, la loi intervient parce que ça va rendre le péché encore plus. Ah, puisque je te l'avais dit et que tu l'as fait quand même, tu vois bien que la loi débusque le péché, le rend évident, elle le met en lumière. Chapitre 7, verset 13, ça on l'aime. Il faut que le péché se manifeste comme péché. Et puis, l'apôtre Paul va mettre aussi en évidence l'incapacité de la loi à me changer, à me transformer. Ça, je ne vous l'ai pas mis, mais toujours au chapitre 3, verset 20, pour ceux qui notent, l'apôtre Paul, on l'avait lu, personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Au chapitre 8, je vous ai mis la référence ici, les versets 3 et 7, l'apôtre Paul dit, impossible à la loi dans le cadre de notre vie nouvelle, de notre transformation, parce que la chair la rendait sans force. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, ce n'est pas dans ma nature. Il y a, c'est évident, dans la loi, cette incapacité à me sauver, incapacité à me changer. La loi pointe du doigt, elle révèle, elle catégorise, elle excite le péché, mais elle me laisse.
Sans force.
Elle me laisse sans force. Elle me pointe du doigt. Et chaque fois que j'essaye ou que je promets à Dieu, c'est pour ça que vous m'avez déjà entendu dire, frères et sœurs, ne faites jamais de promesses à Dieu. Chaque fois que vous dites, à partir de demain, je ferai ci, à partir d'aujourd'hui, je serai comme ci. Ah Seigneur, là, tu verras, là, vraiment, je ferai ça, et je ferai plus ça. Et puis là, oh là, je vais m'interdire ça, parce que là, de toute façon, voilà. Et quand ça marche, on est tout fier. Mais toutes les lois qu'on a mises en place, quand nous ne les respectons pas, quand nous n'accomplissons pas les lois que nous, les normes que nous avons mises en place, alors que Dieu ne nous a jamais demandé de mettre des normes en place, c'est lui qui change nos vies. Et quand nous, nos normes, nous ne les accomplissons pas, c'est le principe de toute loi. Elle se retourne contre nous alors qu'avant elle nous avait poussé à l'orgueil et à la complaisance. Ensuite, elle se retourne contre nous, elle nous accuse. Et on se sent les plus dévalorisés, les plus minables de tous les chrétiens ou de tous les pasteurs de France, ce que vous voulez. La loi me laisse sans force. Elle ne fera rien pour me changer. La loi ne perdit, pardon. La loi, c'est, j'ai déjà fait un spoiler là-dessus. Rapidement, la loi ne détruit pas le péché. La loi excite le péché. On a lu les passions des péchés provoquées par la loi. Toujours ce qu'on a lu au chapitre 7, le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Parallèle dans 1 Corinthiens 15, la puissance du péché, c'est quoi? Ben, c'est la loi. J'aurais pu vous mettre les Galates, etc., etc., c'était pareil. Pour vous résumer un peu le chapitre 7, avant qu'on apporte une conclusion, parce qu'après on passera à d'autres choses. Mais il faut déjà vraiment que ça se soit clair. Pour résumer le chapitre 7, c'est quoi cette analogie que l'apôtre Paul fait avec le mari et la femme? En définitive, c'est simple. Imaginez que la loi, que vous soyez marié, que la loi c'est votre conjoint. Pour vous, mes sœurs, c'est votre mari. Pour vous, messieurs, c'est votre femme. La loi c'est votre mari. Vous êtes marié à ce mari-là. C'est comme ça. Vous êtes né comme ça. Vous avez été marié de force. Vous n'avez rien demandé. Depuis le début, vous avez été marié de force. C'est un mariage forcé. Vous êtes marié à ce mari-là qui s'appelle la loi de Dieu. Alors c'est un mari qui est certes, c'est un mari qui a toujours raison. Et là, mes sœurs, ne dites pas, tiens, ça me fait penser à mon mari. Non. Parce que ce mari-là, contrairement à vos maris, lui, il a vraiment toujours raison. Mais le problème de ce mari qui est parfait, qui a toujours raison, le problème, c'est qu'il ne vous aime pas. Il n'est pas là pour vous aider. Il est là pour vous renseigner. Il n'est pas là pour un partage de vie et d'amour avec vous. Il est là parce que il est là pour vous renseigner. Il est dur, il est froid, il est impassible. Il est figé, il est bloqué dans le marbre. C'est votre mari, vous n'avez pas le choix, il faut faire avec. Et il est dans le marbre, comme la loi avait été gravée sur les tables de pierre par le doigt de Dieu. Et puis ce mari, effectivement, il a des exigences nobles. Parce que ce qu'il dit est vrai, il a toujours raison. Mais malheureusement, ces exigences nobles, légitimes, sont inaccessibles. Votre mari, il est fou furieux, pardonnez-moi. Il a mis la barre trop haut, et puis le niveau est trop élevé. Et ce mari, ce bloc de marbre impassible, sans amour, il est toujours en train de vous pointer du doigt. T'as pas fait ci. T'as pas fait ça. Et quand vous faites quelque chose de bien, hop, il pointe autre chose. Et quand vous faites quelque chose de bien, il repointe autre chose. Il a toujours quelque chose à dire, il est toujours en train de vous accuser, de vous condamner, et il vous dit parce qu'il ne sait faire que ça. T'es pas à la hauteur. T'es pas bien. Tes pensées ne sont pas bonnes. T'as péché. T'as regardé cette femme. T'as regardé cet homme. T'as fait ci. T'as fait ça. T'as pas fait ci. T'as pas fait ça. T'as menti, etc. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, il a raison. Je suis accusé. Et il a raison. Et chaque fois que je fais quelque chose de bien, de toute façon, c'est jamais suffisant. C'est pas drôle d'être marié à un époux ou à une épouse comme ça. Et le pire de ce mari qui est froid, dur, figé dans le marbre, qui pointe, qui accuse et qui ne vous aime pas, c'est qu'en plus ce mari il est totalement impotent. Mais alors totalement incapable. Déjà, il ne veut pas, mais même s'il le voulait, il ne peut pas lever le doigt. Il peut vous pointer du doigt, ça, avec l'index, il y arrive. Mais il ne lèvera jamais le petit doigt pour essayer de vous aider. Jamais pour essayer de vous encourager, de faire... Non, il est impotent, il ne peut rien faire pour vous, si ce n'est vous dire, c'est pas ça, c'est pas bien, t'es pas à l'auteur, t'as pas fait assez, etc. Il est incapable de vous aider, votre mari. Et le pire du bien. La plus mauvaise des nouvelles, c'est ce que Paul dit. c'est que ce mari auquel vous êtes marié, il est immortel. Il ne mourra jamais. Vous avez dit perpète avec lui. Jésus a dit, ma parole ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, mes commandements, mes lois ne demeureront jamais. Ne passeront jamais, demeureront à jamais, pour l'éternité. Donc ce mari, en plus, avec l'angoisse qu'il vous met, il est immortel. Donc je ne peux pas m'en débarrasser. Je ne peux pas rejeter la loi. Je ne peux pas me débarrasser de ce mari. Et puis si jamais je me débarrassais de ce mari, je ne sais pas comment je ferais, et que je commençais à aller avec un autre mari qui s'appelle Christ, c'est là que Paul dit, mais de toute façon, ça s'appelle un adultère. Spirituellement, c'est un adultère, ça ne marche pas. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on est dans une impasse? Non, merci Seigneur, parce que là, ce que le Seigneur a pourvu, a prévu, c'est pas que la loi disparaisse, c'est pas que la loi meure. Et c'est tout l'intérêt de Romains 6, on le relira, relisez-le chez vous. Ignorez-vous que lorsque vous avez été baptisés, c'est en la mort de Jésus que vous avez été baptisés. Vous avez été ensevelis avec lui, vous êtes morts avec lui et vous êtes ressuscités avec lui dans une vie nouvelle. Donc pour que ce mariage qui est un véritable cauchemar avec la loi soit enfin rompu légitimement et légalement, sans que vous soyez des adultères spirituels, le Seigneur a décrété que si vous aviez la repentance, la conversion, la foi, vous mourriez avec lui spirituellement parlant. Et comme vous êtes mort, vous êtes dégagé de cette union, vous naissez à nouveau à la vie de Dieu. Et comme vous êtes né à la vie de Dieu, vous êtes une nouvelle personne, plus l'ancienne mais nouvelle, et que vous êtes né de Dieu, par Dieu, pour Dieu, eh bien il faut choisir un nouveau mari. Et là l'apôtre Paul il te dit, s'il te plaît, sois pas stupide, reprends pas l'ancien. Voilà, c'est QFD. Il faut absolument que tu sois avec, que tu aies cette union à Christ. Tu as eu la grâce depuis ta conversion, ta repentance, ta justification, ton entrée dans le salut, ton baptême. Tu étais mort avec Christ. Peut-être on ne te l'a jamais expliqué, ben maintenant c'est fait. Et tu es mort à toi-même, tu es mort au péché, tu es mort à la loi, tu es dans une vie nouvelle, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Donc tu as le droit de choisir un nouveau mari, tu as le droit de choisir une nouvelle vie, tu as le droit de choisir un nouvel avenir. Et c'est pour ça que Paul dit, j'ai étendu un petit peu pour quand même sortir un peu des Romains, 1 Corinthiens 15, maintenant Galates 3, 24, 25. La loi, elle a été un pédagogue. Avec tout ça, j'ai compris qu'il ne fallait pas insister. Il fallait mieux que j'accepte de mourir à moi-même, que je meure à tout ça, que je renonce non seulement à cette loi, que je renonce à toutes mes formes de loi, d'exigence, tout ce que je veux mettre en place pour essayer de me canaliser, de me maîtriser, de me rendre vainqueur. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que, justifiés par la foi, nous ne soyons plus sous ce pédagogue et la loi, parce que si nous y retournons, même si on a fait l'expérience de la justification, si nous y retournons, nous serons coupés de la vie de Christ et le cercle recommence. Limite, incapacité, échec, tentation, faiblesse, interdit, obligation, nouvelle norme, nouvelle loi, nouvelle culpabilité, nouvelle... Que vous ne soyez plus sous ce pédale. Romains 7, verset 6. Maintenant, étant dégagés de la loi, nous sommes morts à cette loi. La loi n'est pas morte. C'est nous qui sommes morts et vivants pour Christ. Romains chapitre 10, verset 4. Christ est la fin de la loi, c'est-à-dire, il est l'accomplissement de la loi, bien sûr, on l'a dit. Il est l'aboutissement de la loi. Et la finalité de tout cela, évidemment, c'est que Christ. Voilà ma conclusion. Le voilà maintenant. Justifié par la foi, dégagé de la puissance de la loi et de toutes mes lois absurdes, j'insiste, pardon, me voilà maintenant dans les bras d'un nouvel époux. Me voilà dans les bras d'un nouveau mari, dans une vie nouvelle, dans une nouvelle alliance, un nouveau mariage. Et lui, ce nouveau mari, lui, il me porte. Lui, il me console. Lui, il m'encourage. Lui, il est capable de me changer. Lui, pour faire écho à ce que promettait Ézéchiel, il est capable de changer mon cœur. Il est capable d'écrire sa loi. Elle n'est pas morte, la loi. C'est lui qui va l'écrire dans mon cœur. C'est pas moi, il va me changer. Et il va écrire sa loi dans mon cœur. Lui, il ne va pas m'offrir une vie figée dans le marbre avec des accusations. Lui, il va m'offrir une vie de relation. Pas une vie d'obligation. Pas une vie d'interdiction. Il va m'offrir une vie de relation. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, 90% de 90% des 90% des problèmes de 90% des chrétiens viennent d'une lacune de relation avec Jésus. Une vie d'amour, une vie passionnante, une vie passionnée, une vie qui est fondée sur ce qu'il a fait, pas sur ce que j'ai fait ou pas fait. Une vie qui est fondée sur ce qu'il est, pas sur ce que je ne suis pas encore, parce qu'en lui, je suis déjà tout. Une vie fondée sur ses mérites, sur ses efforts, sur ce que lui a acquis. Une vie de relation, une vie de communion, koinonia en grec, qui signifie autant communion que communication. Une vie de victoire, une vie de transformation. Alors mes frères et sœurs, autant pour nous que pour tous ceux qui vont écouter ce message plus tard sur le net, renonce à tes efforts. Renonce à la loi. Renonce à tes lois. Abandonne-toi. Capitule. Et vraiment une capitulation devant la grâce, on en reparlera. Renonce. Ne rajoute pas tes règles, tes lois. Accepte la réalité de la grâce. Oui, les premières facettes de la grâce, c'est qu'elle brise mon ego. Elle brise mes prétentions. Elle brise mon besoin de prouver que je suis capable de quelque chose, puisqu'elle me dit « Non, tu n'es rien. Non, tu n'as rien. » Je vous l'ai dit dimanche, « Non, tu ne peux rien. Mais moi, j'ai tout. Moi, je suis tout. Et moi, je veux tout. Et toi à qui je veux tout seul, je veux tout comme il faut. » Maintenant, on va voir ensuite si on a compris. Une fois que Jésus a été entier à la croix pour toi, on en parlera plus tard, et Paul va déboucher logiquement là-dessus. Il va déboucher sur la thématique de la consécration totale, de la relation à Christ et la réciprocité. Jésus a été tout entier à moi à la croix. Moi, aujourd'hui, franchement, ça demande vraiment réflexion et méditation. Est-ce que je suis vraiment tout entier à lui? Parce que c'est comme ça. Et on va voir ensuite quel genre de relation, quel genre de mariage je ne viens pas avec Jésus. Parce que la clé, elle est là. C'est la clé de toutes les victoires. C'est comme ça que tout ce qu'il m'a acquis va m'être communiqué. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Merci beaucoup pour votre attention.